Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle pastille draft. On est presque à la moitié, les foules se déchaînent, tout le monde ne pense qu'à la draft. Évidemment, tous les soirs avant de vous coucher, vous vous dites quel joueur mon équipe va prendre au premier tour. C'est évidemment ce qui occupe vos pensées chaque minute. Et nous allons y répondre aujourd'hui pour les New Orleans Saints et évidemment pour m'accompagner, c'est Jean-Michel Boujard. Bonjour à toi, Jean-Michel.
Bonjour, Victor. Bonjour, tout le monde. Les Saints, la franchise de la ville la plus francophone des États-Unis. Ça fait plaisir. Ils ont un beau logo, un beau maillot, un beau stade, une belle équipe qui nous a bien plu il y a quelques années. Donc, allez, on y va.
Et oui, on rappelle que c'est la franchise qui détient les droits marketing sur la France. La France qui est un des rares pays qui n'a été demandé que par un pays. Que par une franchise, je veux dire, alors que la Suisse, l'Autriche en ont 3 ou 4 et l'Allemagne doit en avoir 8. Ça vous montre un peu l'importance de la France actuellement. Parenthèse refermée, les Saints. Écoute, les Saints, je pense que les grandes franchises doivent parfois admettre leurs erreurs, tourner la page et trouver mieux. Une des erreurs, entre guillemets, mais ça arrive, hein, c'est la vie. Une des erreurs des Saints, ça a été Trevor Penning. Trevor Penning, qui est une catastrophe depuis qu'il est arrivé en NFL, en plus d'être un cas social. Et il y a un besoin au niveau du tackle. Et du coup, les Saints partent sur un projet. Alors, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas sur un joueur d'impact le premier jour, mais partent sur un monstre physique. C'est Amarius Mims. Parle-nous de ce joueur qui fait saliver bien des analystes NFL.
Ah oui, parce que c'est un Golgoth, voilà, c'est un géant, il est très grand, il est très costaud, et quand on voit sa mobilité pour son gabarit, c'est juste impressionnant. Je veux dire, on dirait Hulk dans un film des Avengers, sa façon de courir, supersonique, alors que c'est un monstre physique. Ben voilà, c'est Amarius Mims, et puis voilà, comme tu l'as dit, Trevor Penning, ça fait pas l'affaire à gauche. Et puis, en plus, on a appris la nouvelle comme quoi le tackle droit et Ryan Ramczyk pourrait manquer toute la saison, ou en tout cas une grande partie de la saison 2024. Donc le besoin de tackle qui était déjà présent est là vraiment renforcé. Donc les Saints doivent absolument aller sur un tackle offensif. Comme tu l'as dit, il y a peut-être d'autres tackles qui semblent un petit peu plus prêts à jouer dès à présent. On peut penser à des J.C. Latham par exemple, mais à Marius Mims a beaucoup plus de potentiel. Pourquoi Mims serait moins prêt? C'est parce que, en raison d'une petite blessure et en raison surtout de la concurrence qu'il y avait à Georgia, et il n'a pas énormément d'expérience, donc du coup forcément moins de situations de jeu et donc forcément un petit peu moins de technique et puis il y a du travail à faire. Mais quel potentiel! C'est-à-dire que si tu prends ce joueur, a priori, dès la première année, là, son année rookie, tu pourras le mettre à droite puisque tu auras un besoin. Il jouait tackle droit en plus avec Georgia, ça tombe bien. Et ensuite, tu as un tackle gauche d'avenir pour remplacer Trevor Penning. Donc oui, les Saints qui choisiraient Amarius Mims, moi ça me paraîtrait vraiment sensé.
Oui, je pense que les Saints doivent adresser cette ligne offensive parce que mine de rien, la division n'est pas si imprenable que ça. Avec tout mon respect pour les Falcons, on verra ce que ça donne avec Cousins, mais ça reste un quarterback de 35 ans qui revient d'une grosse blessure. Mais les Saints, ils ont le quarterback, ils ont les receveurs, ils ont le coureur, ils ont tout pour avoir une bonne attaque. Par contre, il faut une ligne. Et en plus, tu l'as dit, déjà qu'ils ont perdu Armstead il y a déjà quelques temps, si maintenant ils perdent Ramczyk, comme ça a l'air d'être le cas, et honnêtement, ça pue la blessure de fin de carrière. Hein. Là, il est en train de nous faire une back carry, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'il va falloir absolument répondre à ce besoin. Parce que globalement, en profondeur, ils n'ont pas non plus grand monde. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de sens. Donc ça, c'était au premier tour. Et au deuxième tour, apparemment, ils se sont inspirés de la logique Howie Roseman, c'est-à-dire ligne, 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 puisqu'au deuxième tour, ils choisissent celui qui est peut-être celui qui a gagné le plus de points après la saison. Vraiment, il y a toujours ce joueur qui éclabousse le processus draft de son talent. Et lui, c'est peut-être le plus caractéristique. C'est Braden Fisk, le defensive tackle, qui a des bras trop courts, évidemment, le T-Rex. Mais à part ça, à part les gens qui lui reprochent ses bras un peu trop courts, écoute, il a à peu près tout le reste.
Oui, c'est ça. Il a marqué, comme tu dis, beaucoup de points lors du process parce qu'il s'est montré extrêmement athlétique. Mais en même temps, c'est pas juste un monstre athlétique du combine. Il a fait une très très bonne saison avec Florida State et ses qualités athlétiques, on les a vues sur le terrain. Après, voilà, quand on vous propose un scénario de mock draft, forcément, on tient compte des besoins de la franchise, également des habitudes, et on sait qu'ils aiment bien renforcer notamment la ligne défensive. Alors, un defensive end, c'est toujours une possibilité, sauf que ils ont signé Chase Young, il y a toujours Cameron Jordan, ils ont drafté l'année dernière Isaiah Foskey, il y a Carl Granderson, on n'en parle pas beaucoup de ce joueur, mais qui est très bon. Donc, a priori, ils ont déjà 4 defensive end, et j'ai même pas mentionné le flop Peyton Turner, mais ils ont déjà 4 defensive end. Mais par contre, à l'intérieur de la ligne, ça manque un peu de rotation, parce qu'il en faut. Il y a des joueurs, bien entendu, j'oublie surtout pas Brian Breezy, qu'ils ont drafté l'année dernière, mais rajouter un Braden Fisk à ses côtés, ce joueur avec un gros moteur, tout le temps dans l'agression, capable de bouger, il se faufile et puis il traverse, il éclate la poche. Voilà, c'est vraiment le joueur qu'il leur faut sur la ligne défensive. Et vu les habitudes du manager des Saints, c'est forcément un joueur qui l'intéresse.
Oui. Moi, je ne serais pas étonné, en effet, qu'ils prennent cette direction. C'est un peu un retour aux fondamentaux, globalement. Pour gagner un match de football, il faut être bon sur des lignes. Et c'est vrai que là où les Saints sont dominés sur les lignes pendant des années, force est de constater avec tout notre respect, hein, mais que ça commence à vieillir, à s'affaiblir. Le poste défensif tackle, ça fait quelques années que c'est un peu compliqué, on va dire. Donc il faut renforcer ce poste et ça me paraît être un profil intriguant. Donc, on s'est occupé des lignes. Maintenant, on va s'occuper de l'arrière de la défense. Avec un joueur que j'aime beaucoup, que je trouve intriguant, on va le dire comme ça, c'est Chris Abrams-Drane, donc qui est un, je vais l'appeler pour l'instant, tu vas me dire ce que tu en penses, je vais l'appeler defensive back, parce que pour moi c'est un joueur assez polyvalent. Il vient de Missouri. Explique-nous ce qu'il pourrait apporter à cette défense de New Orleans.
Ben, polyvalent, comme tu dis, il a commencé son cursus universitaire comme receveur, et puis bon, c'était un receveur moyen, il aurait pu faire une petite carrière universitaire, mais sans doute, même c'est certain, ne pas connaître la NFL. Il est passé en défense, et ça a plutôt très bien marché avec l'université de Missouri. Alors, il jouait à l'extérieur, mais en NFL, son manque de gabarit, franchement, il sera surtout fait pour le slot, mais pour le slot, il peut être vraiment très très efficace, parce que c'est un joueur très intelligent, qui comprend bien les lignes de passe, comment les couper, comment marquer. Un receveur, notamment dans le slot, il a suffisamment de vivacité, et c'est exactement ce qu'il faut aux Saints, parce que ils ont déjà leur cornerback pour l'extérieur, avec Adebo, avec Latimore, et puis on l'a vu l'année dernière, Alante Taylor, il a fait ce qu'il a pu dans le slot. Voilà, en tant que nickel cornerback, il n'a pas fait que des mauvaises choses, il a fait 2 interceptions, mais si tu regardes sa saison sur la globalité, il s'est surtout fait brûler dans le slot, vraiment, ça ne le fait pas. Donc remets-le à l'extérieur, en concurrence, et puis même, tu utilises souvent plus de cornerback que 2 à l'extérieur, mais il te faut un cornerback, un nickel cornerback, et ça, Chris Abrams-Drane, il a tout à fait ce profil-là, donc du coup, c'est forcément un joueur qui doit intéresser les Saints, et leur entraîneur, on le rappelle, Denis Allen, c'est quand même quelqu'un qui vient du côté défensif du ballon, notamment des arrières défensifs, et du coup il voit bien qu'il y a un manque au poste de nickel cornerback, ils vont forcément prendre un dans cette draft, moi j'ai même ma main à couper, alors pourquoi pas Chris Abrams-Drane.
Ouais, je suis assez d'accord, mettre Taylor dans le nickel, je trouve aussi que c'est un crime, parce que vraiment c'est pas de lui rendre service. Écoute, je suis assez d'accord, moi je pense que Missouri en fait, c'est une équipe, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont fini en 11 victoires, 2 défaites, je crois. Ils battent Ohio State au bowl, je ne sais plus lequel, un bowl. Ils font une saison absolument incroyable et personne ne parle de leurs joueurs. Alors, heureusement, le processus draft a permis de mettre un peu la lumière. Alors, Abrams-Drane, c'est presque celui qui a perdu un peu de crédit par rapport à l'année dernière. C'est peut-être l'exception. Mais malgré tout, ça reste un joueur ultra solide qui a été dans un très bon système qui a su vraiment être... C'est un perturbateur. C'est pas forcément le joueur décisif, au sens, c'est pas un premier tour, c'est pas un cornerback extérieur dominant. tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien ces joueurs perturbateurs. Je pense même qu'il peut faire sa carrière en free safety, que je ne serais pas étonné, tu vois. Il faudrait peut-être prendre un peu de masse, il faudrait peut-être un peu tout ça, mais globalement, c'est des joueurs que j'aime bien parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la NFL moderne, il y a besoin de ce type de joueurs. On sait, les franchises aujourd'hui jouent avec 5 defensive backs assez régulièrement, voire 6 selon les schémas. Même si, bon, les schémas défensifs des Saints sont parfois un peu old school, mais ça, c'est un autre problème. Je pense vraiment que c'est le genre de joueurs dont ils ont besoin. Ces perturbateurs dans les zones, on va dire intermédiaires. Et avoir un tel joueur, en fait, peu importe son plan de développement, il te sera utile. Et donc, du coup, je pense en effet que ça fait beaucoup de sens. Donc voilà, pour les Saints, on a renforcé la ligne, on a renforcé la ligne offensive, la ligne défensive et la ligne arrière de la défense. Écoute Jean-Michel, avec cette superbe draft, les Saints pourront affronter les Falcons, ses yeux dans les yeux, pour remporter la division, évidemment.
Oui, c'est possible. On n'oublie pas non plus Tampa Bay, hein, évidemment, quand même. Et oui, une division très ouverte de toute façon. Et voilà, il faut qu'ils se renforcent sur les lignes, un petit peu en défense. Et ils sont pas si loin que ça, quand même.
Je vois que tu as oublié Caroline, c'est terrible. Merci à tous. Évidemment, c'est une blague. Après, on ne sait jamais, hein. Tu sais, les surprises en NFL, ça va très vite. Merci à tous. Merci Jean-Michel.
Merci Victor. Bonne journée tout le monde.
Et on se retrouve demain pour parler des Indianapolis Colts. Merci à tous.